Bonsoir à toutes et à tous, on est sur l'émission Une heure en Palestine avec Radio Galère. Alors pour ma part c'est la première de l'année 2025 et je constate avec joie que dans le local de Sidi, il y a une table de mixage tout à fait récente. Donc merci encore Sidi de nous accueillir et donc c'est la première pour moi en tant que membre de Palestine 13, mais c'est aussi la première émission en 2025 qui se fait sans Étienne Bastide. Étienne Bastide qui a été l'un des créateurs de Radio Galère, qui en a été l'un des animateurs infatigables, et surtout Étienne pendant des années a tendu le micro à des jeunes qui ont grâce à lui appris beaucoup de choses sur la technique de la radio et du coup sur la vie en général. Et je crois que Sidi fait partie de ceux qui ont reçu beaucoup de choses d'Étienne, et donc on remercie Sidi d'être toujours un technicien fidèle et dévoué à Radio Galère. Alors bien sûr, cette année 2025 a commencé par ce qui doit être considéré comme une bonne nouvelle, c'est-à-dire l'annonce de cessez-le-feu, tant attendu et réclamé partout dans le monde depuis des mois. Et même s'il permet effectivement la libération de quelques otages ou prisonniers, ce qui est bien sûr très réjouissant pour ces personnes et pour toutes leurs familles, personne n'est dupe malheureusement sur la très grande fragilité de ce cessez-le-feu. Et bien sûr, toutes les populations de Palestine occupées, d'Israël, du Liban, de Syrie, etc., sont encore très très loin de pouvoir imaginer vivre dans des conditions de justice et de paix. Alors plus que jamais, malgré donc ce cessez-le-feu qui durera ce qu'il durera, des très nombreux événements sont organisés partout dans le monde pour que cessent les horreurs infligées aux Palestiniens en général et aux survivants de la bande de Gaza en particulier. Et dans notre département, depuis ce fameux 7 octobre, en plus des manifestations qui ne cessent pas de se dérouler chaque dimanche, que ce soit à Marseille avec le rendez-vous de la Porte d'Aix, à La Ciotat sur les marches de l'église du Vieux-Port, à Aix le samedi, etc., etc., nous aurons dès demain, jeudi 30 janvier, de rassemblements très importants pour lesquels le plus grand nombre de participants est nécessaire. D'abord donc ce jeudi 30 janvier à 12h30 devant l'usine de matériel d'armement Eurolinx qui est située au 14 rue Le Prince Ringuet à Marseille dans le 13e. Donc là il s'agit de protester encore et toujours contre le fait que tant d'énergie, tant d'argent soit dépensé dans notre pays pour fabriquer des armes en général et des armes qui servent à des très très mauvaises causes en particulier. Donc à 12h30 devant l'entreprise Eurolinx, 14 rue Le Prince Ringuet, et à partir de 16h45 cette fois, ce rassemblement aura lieu devant les locaux de l'Union Européenne, enfin en tout cas de la représentation de l'Union Européenne à Marseille qui se situe 2 en rue Barbus. Donc c'est un grand immeuble qui est juste à côté du centre commercial Centre Bourse, à côté de l'entrée des jardins des vestiges du musée d'histoire de Marseille. Voilà, donc là cette fois bien évidemment c'est pour exiger que l'Union européenne cesse les accords avec Israël tant que des guerres abominables perdurent et que l'Union européenne cesse d'être la complice de guerres abominables. Voilà, alors ensuite on va passer déjà au mois de février, et donc le premier dimanche de chaque mois, en l'occurrence le 2 février, redémarre à la Cité des Arts de la Rue, aux Égalades, l'événement mensuel, donc un dimanche aux Égalades, qui permet aux visiteurs de voir ce fameux ruisseau qui coule là au milieu de ces quartiers, qui permet aussi de voir un magnifique marché de producteurs avec des produits qui ont beaucoup de sens, et en particulier, entre autres, le stand de la route du Zaatar. Hein. Vous savez que depuis 4 ans, on développe ce projet de transport de produits méditerranéens et palestiniens en particulier, parfois à la voile quand c'est la bonne saison et parfois sur des marchés. Et en plus, au Dimanche des Égalades, à côté du stand de la route du Zaatar, on retrouve le stand de Abed. Abed qui était déjà venu avec nous faire l'émission de Noël. Abed qui est donc un réfugié gazaoui installé à Marseille depuis quelques années et qui depuis le 7 octobre produit pour des survivants de sa famille à Rafah et leurs voisins des objets qu'on peut lui acheter. Voilà, donc dimanche 2 février, reprise de Dimanche aux Égalades. Alors le samedi 8 février, à l'initiative du collectif Paix et Justice au Proche-Orient, aura lieu tout l'après-midi de 14h à 20h à Aix-en-Provence, au 50 rue du Château de l'Horloge, donc toute une après-midi sur le thème Palestine et Liban, quelle humanité, point d'interrogation. Donc ça c'est samedi 8 février à Aix-en-Provence. Et puis le samedi suivant, cette fois on sera déjà le 15 février, et là il va y avoir quand même un événement historique, puisque n'ayons pas peur des mots, dans le plus ancien cinéma du monde, qui s'appelle l'Eden Théâtre de la Ciotat, hein, celui dans lequel les frères Lumière avaient projeté l'arrivée du train en gare de la Ciotat. Donc le 15 février prochain sera de nouveau projeté le nouveau documentaire qui s'appelle No Other Land, Pas d'autres pays, qui a été produit par un collectif à la fois d'Israéliens et de Palestiniens. Donc ça sera à 18h à l'Eden Théâtre de la Ciotat le 15 février. Et après le film, on aura une conférence débat avec l'excellent réalisateur israélien Eyal Sivan, installé à Marseille depuis de nombreuses années. Abed participera également au débat. Voilà, le 15 février, donc, à l'Eden Théâtre de la Ciotat. Et puis, il y a tout un tas d'autres événements, bien évidemment, qu'on peut retrouver dans l'agenda très bien mis à jour du site Asso Palestine 13. Palestine 13, d'ailleurs, qui publie également tous les vendredis une lettre par mail, qui permet d'avoir d'une part des informations en général sur ce qui se passe au Moyen-Orient et des informations, je dirais, qui sont sourcées, qui proviennent parfois de l'association française Palestine Solidarité. Donc il y a le site Asso Palestine 13 et la lettre du vendredi, si bien évidemment on est inscrit sur la liste de diffusion. Voilà pour les quelques dates importantes que je voulais citer en ce début d'émission Une heure en Palestine. Et je suis très heureux d'avoir avec nous, là, dans le studio de Radio Galère, une jeune fille qui s'appelle Marie, qu'on ne connaissait pas encore, mais qui a envoyé il y a quelque temps à Radio Galère un courriel signifiant qu'elle produit un podcast. Alors du coup, le mieux, c'est qu'on écoute la bande-annonce de ce podcast qui s'appelle « Yalla, je t'emmène ». Donc en avant, Sidi, s'il te plaît.
Ça fait un an. Bonjour à tous, édition spéciale toujours consacrée à cette nouvelle guerre au Proche-Orient.
Ce matin, la branche armée du groupe palestinien Hamas a lancé une opération armée.
Une journée qui a marqué l'histoire du conflit israélo-palestinien.
Un an que les journalistes redoublent d'inventivité pour qualifier ce qu'il se joue là-bas. Encore au moment où je vous parle. Moi, je m'appelle Marie. Je suis française. Mais j'ai habité 2 ans en Palestine, avant d'en être évacuée, à cause de cette guerre qui n'en finit pas. Et parce que je n'en pouvais plus d'attendre de repartir.
Les vols ont repris.
Parce que je voulais vous montrer plus que ce à quoi on associe la Palestine. Et aussi parce que je voulais attirer l'attention sur une autre partie de la guerre passée sous silence, celle qui se déroule en Cisjordanie. J'ai mis sur pied ce podcast. Je vais vous emmener avec moi à chaque étape du voyage. Et surtout, je vais laisser la parole aux Palestiniens et aux Palestiniennes. Pour qu'ils et elles nous racontent leur réalité.
C'est un rêve.
Et n'oublie pas qu'on ne vit pas dans une situation normale.
En particulier depuis ce 7 octobre 2023.
Why a lot of countries have the right to defend, to resist, to fight, but Palestinians, they don't have the right to do this.
It's like a prison break.
Alors, tentez. Yalla, je t'emmène.
Je
Should we start?
Voilà, donc on vient d'attendre la bande-annonce de ce fameux podcast qui s'appelle « Yalla, je t'emmène » et qui est disponible sur énormément de plateformes. Pour ma part, j'en ai connaissance parce que Marie a envoyé un mail à Radio Galère signifiant l'existence de ce podcast. Et par chance, j'ai écrit à Marie et hop, on vient de se rencontrer là, aux grandes tables de la Friche. Donc Marie était avec nous dans le studio. Donc Marie est installée à Marseille depuis seulement 2 semaines.
Oui, bonjour.
Et bonjour Marie. Et donc, je ne vais pas encore te demander ton avis sur notre ville, mais j'ai cru comprendre que tu t'installes à Marseille pour continuer tes démarches de professionnalisation dans le monde du journalisme.
Exactement, c'est okay.
Ok, donc moi j'apprécie de plus en plus la radio, bon surtout Radio Galère, mais d'autres radios aussi, parce que je trouve que c'est un média extraordinaire où on peut entendre le son d'une ou de plusieurs voix et on peut entendre ce qui est dit sans être perturbé par tout un tas d'images qui sont réelles ou fausses, etc. Et donc j'ai écouté quelques extraits de ce podcast. Je ne suis pas un spécialiste de radio, mais il m'a semblé qu'il est bien réalisé. Et puis surtout, ce que j'ai entendu m'a beaucoup intéressé. Donc voilà, si tu veux nous en dire plus, donc comment est arrivée d'abord l'idée de ce podcast, quand est-ce qu'il s'est fait, etc.
L'idée du podcast, on l'a eue il y a à peu près un an avec celui avec qui j'ai co-créé le podcast qui s'appelle Mewen, Petard. Et on a eu l'idée parce que lui est journaliste et qu'on a discuté un petit peu ensemble. Et il m'a dit, ton histoire, elle est bien pour faire un podcast. Toi qui es évacué en Europe, peut-être qu'on pourrait repartir avec des micros tous les deux en Palestine pour aller écouter les Palestiniens nous parler de leur réalité.
Ok, donc tu viens de dire que tu avais été évacué en Europe, parce qu'effectivement, donc, tu as vécu à Ramallah de 2022 à 2024. Et il se trouve que tu étais en Tunisie quand est arrivé ce fameux terrible 7 octobre. Et que donc, de toute façon, ce n'était pas possible à ce moment-là de retourner à Ramallah. Et c'est la raison pour laquelle tu dis que tu étais exilé en Europe, en quelque sorte.
Exilé, c'est un grand mot. Je trouve qu'il est trop connoté. Maintenant, on ne veut pas dire exilé. Mais oui, j'étais, comme ils disent, eux, évacué. Mais pareil, le mot évacué, il est évacué, un petit peu voilà. Connoté.
Non, tu as raison de préciser, parce qu'il y a des gens qui sont évacués, c'est une chose. Mais bien évidemment, ceux qui sont exilés, ceux qui ont été exilés il y a 70 ans et qui attendent toujours de revenir, c'est pas pareil qu'évacuer, bien évidemment.
Ça, c'est un thème qu'on aborde d'ailleurs dans le podcast, dans le tout premier épisode, de dire à quel point j'ai de la chance, moi, en tant que Française, de pouvoir aller en Palestine, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de Palestiniens de la diaspora.
Tout à fait, ça c'est absolument terrible. Donc, on parle ici de Palestine 13. Effectivement, dans Palestine 13, il y a un Palestinien qui s'appelle Samar, qui est extrêmement actif, mais qui malheureusement, lui, n'a pas pu aller en Palestine et ne peut pas y aller. Voilà. Et donc, c'est sûr que donc, tu as vécu à Ramallah. Et donc, en ayant vécu à Ramallah de 2022-2024, qu'est-ce que tu peux nous en dire finalement de Ramallah? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à Ramallah en 2022, par exemple?
Qu'est-ce qui s'est passé pour moi à Ramallah? Il s'est passé plein de choses, mais je crois que la plus grande chose, c'est d'avoir rencontré des Palestiniens et d'avoir vu ce qui se passait là-bas avec mes yeux. J'étais un peu au courant de ce qui se passait avant, mais malheureusement ou heureusement, le fait d'aller là-bas, ça change tout. On voit les choses de ses propres yeux. On voit. Je pense qu'une des choses qui m'a le plus marqué, c'est à quel point c'était visible la différence de privilège entre moi qui suis étrangère et les Palestiniens qui sont pourtant dans leur propre pays. Je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué là-bas, en étant là-bas.
Ok, je comprends d'autant plus ce que tu dis, parce que moi-même je m'intéresse énormément au sujet de la Palestine, en ayant lu beaucoup de livres, en ayant vu beaucoup de films, en rencontrant beaucoup de Palestiniens qui sont en France, mais je n'y suis jamais allé, donc j'imagine que ça doit être un choc à tous les niveaux. Donc voilà, ce qui t'a choqué, c'est la différence de privilège entre toi qui es une étrangère et ceux qui sont Palestiniens chez eux et qui n'ont absolument pas d'accord. Ok, et donc, mais qu'est-ce qui t'est arrivé par exemple parce que j'ai cru comprendre qu'il est très intime ce podcast, il aborde des sujets très intimes.
L'idée c'était oui, de partir aussi de mes ressentis, de ce que je vois, comment je le perçois, etc. Alors l'idée c'est pas tellement parce que c'est pas très intéressant de savoir comment je me sens par rapport à la situation, le but c'était plus de donner la parole aux Palestiniens et donc d'utiliser mon histoire juste comme un prétexte, un point d'accroche pour qu'on puisse s'identifier, voilà, toi aussi t'es français, peut-être que tu t'identifies à moi, donc pas... et en fait le but c'était de ramener un micro et d'emmener surtout le voyage de la France jusqu'à Ramallah et avec tout le chemin que ça implique. Donc par exemple, moi j'atterris à Tel Aviv, ce qui n'est pas le cas de tous les Palestiniens. Une fois à Tel Aviv, je vais avoir des questions, on va me poser beaucoup de questions. Et puis après, il va falloir que je prenne un taxi ou alors les transports pour aller jusqu'à Ramallah. Et puis sur la route, il y a quelques embûches, si on veut utiliser un euphémisme. L'une des embûches, c'est les checkpoints que connaissent très bien les Palestiniens. Moi, en tant que Française et blanche, j'ai pas souvent de problème aux checkpoints. Et dans le podcast, ce que je fais beaucoup, c'est aussi d'essayer de rendre ça tangible pour un Français qui n'est jamais parti là-bas, ou une Française. Donc, par exemple, je vais comparer le checkpoint à une sorte de péage chez nous. On a vraiment une sorte de péage avec une petite cabine. Et la différence, c'est qu'on ne sort pas la carte bleue pour payer le péage, mais plutôt les papiers d'identité. Et puis, on a des soldats qui sont vraiment armés jusqu'aux dents, et puis des barbelés, des murs, etc.
Ok, donc là on entend Marie, hein, donc réalisatrice de ce fameux podcast « Y'a là, je t'emmène ». Et donc là tu es en train de nous expliquer ce que tu as vécu à Ramallah de 2022 à 2024, mais à ce moment-là le podcast n'existait pas. Donc tu étais en Tunisie pendant que le fameux 7 octobre a eu lieu, tu as dû revenir en Europe alors que tu aurais voulu revenir à Ramallah, mais ce n'était pas possible. Mais par contre du coup tu y es retourné pour le faire ce podcast, c'est bien ça ?
Oui, exactement. C'est très bien résumé.
Et tu as pu y retourner quand, finalement ?
J'ai pu y retourner au printemps 2024.
À ce printemps-là, d'accord, mm-hmm. D'accord. Parce que cette fois, c'était possible, alors que pendant combien de temps, du coup, ça a été impossible ? Imaginons que tu aurais voulu y retourner plus tôt, après le 7 octobre. Pendant combien de temps c'était impossible ?
Non, en réalité, c'était possible de repartir assez rapidement, parce qu'évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de... On a une grosse communauté juive en France qui a aussi des attaches en Israël. Et donc, il y a très vite, l'aéroport a réouvert et on a très vite pu repartir à Tel Aviv.
D'accord.
Mais donc, si j'avais voulu repartir avant, c'était possible. Mais pour des raisons personnelles, moi, c'était au printemps.
D'accord. En tout cas, quand tu y es retourné, donc au printemps 2024, c'était vraiment cette fois avec l'objectif de le produire, ce podcast, c'est-à-dire d'enregistrer en particulier des Palestiniens, des Palestiniennes, et de le produire. Donc moi, je l'écoutais en diagonale, parce que justement, on va voir comment diffuser certains épisodes et à quelle rythmicité sur Radio Galère. Mais tu disais tout à l'heure, donc en tant que Française, tu étais choquée d'avoir beaucoup de privilège par rapport aux Palestiniens eux-mêmes qui pourtant étaient chez eux. Mais en revanche, moi j'ai cru comprendre que par exemple, dès qu'un Français, puisqu'on est Français ou une Française, noue des liens avec un Palestinien ou une Palestinienne, alors là, immédiatement, il est traqué en quelque sorte. C'est ce que j'ai cru comprendre. Tu confirmes que c'est le cas ou...
Traquer, c'est peut-être un grand mot, mais c'est sûr que quand on arrive à l'aéroport de Tel Aviv, ou peu importe, en fait, on ne peut pas aller en Palestine sans passer par un contrôle israélien aux frontières.
Oui.
Et le contrôle israélien aux frontières, il va faire en sorte de savoir si on a des liens avec la Palestine ou les Palestiniens. Et le moins on en a, et le mieux c'est.
Voilà. Et y compris, j'ai cru comprendre, à un moment donné, on entend, je ne sais plus si c'est... Oui, c'est une Française qui devient amoureuse d'un Palestinien. Mais alors, dès ce moment-là, il faut déclarer qu'on devient amoureux de quelqu'un. En fait, c'est un truc qui m'a complètement choqué. C'est-à-dire
que... C'est un des épisodes que je préfère parce que c'est sur l'amour. Et l'amour, ça parle à tout le monde. Et donc, c'est une Française qui tombe amoureuse d'un Palestinien et un Palestinien qui tombe amoureuse de cette Française. Et c'est la question de comment être ensemble quand, justement, c'est compliqué de pouvoir être ensemble en Palestine. Et une des choses, c'est précisément, alors cette histoire de déclaration, c'est quelque chose qui n'a pas été adopté finalement, mais Israël s'est vraiment posé la question d'adopter un décret sur est-ce qu'au bout de 30 jours, enfin le but c'était de déclarer sa relation au bout de 30 jours, si la relation a plus de 30 jours. Donc ça soulève des questions bêtes, mais quand on commence à sortir avec quelqu'un au bout de 30 jours, est-ce qu'on est vraiment en couple ? Et donc je pose ce genre de questions dans le podcast pour essayer justement de rendre la réalité très tangible, parce que tout le monde a été dans cette situation d'être en couple au bout de 30 jours, mais pas avec cette question de savoir est-ce que je dois déclarer ma relation aux autorités à l'immigration.
Ok, bah écoute, Marie, merci beaucoup. Je répète, donc ce podcast s'appelle Yalla, je t'emmène. Il est disponible sur toutes les plateformes et on va voir comment en diffuser des épisodes dans certaines émissions de Radio Galère. En tout cas, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bravo pour le travail que tu as fait là-bas et puis bonne chance pour ton insertion à Marseille.
Merci
en tant
beaucoup.
Que nouvelle arrivante et je ne doute pas que tu pourras faire beaucoup de progrès en journaliste parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter à Marseille. Merci beaucoup, Marie.
Merci.
لو مرة بس تغفي بروحي المتعبة لو مرة بس يرتاح لي بأرضك غفا لو مرة بس ترتاحي من بطش العدا لو مرة بس نفتاكي بخلا ممتلى كنتي ولا زلتي أنا يا غزتي يا جمرتي
قالوا من ضلوعك وانا كرث الحزن اللي بخاطري يمكن اذا غالي الدمع ترخص لك الروح التي فاضت عذاب جرحك وطالب ظلم ليك المعتدي يا دمع انا بعيني رفح يما الدمع لما نزح طلت طحب طلت شهيد حتى الفرح كرب وجرح لما الحزن بالعشق جوز كيف الحزن بغلى وطول انا بروحي معاك ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح ان وجعنا احنا نسقط ان سقطت ولن تسقط لا ولن نسقط ما دمنا باقونا صبا كنهر الغيب يا غزة انا بروحي معاك ولو بلاك الدنيا جنة من وجع بحرك يا روح الروح ان وجعنا احنا نسقط ان سقطت ولن تسقط لا ولن نسقط ما دمنا باقونا صبا كنهر الغيب ما بشعل دموع لما العاجز يكون نصيب وسكوت يحتل كل حواسك وهموم مستني الدفا لكن هاي نار بتحرق البيوت تخطف منك مستقبلك امك وابوك وكل اللي بتحبهم وبيحبوك ما سألوا ذنبك بفهمك هيك مخلوق لونك مخطوف قدر محتوم مستني الحرب تقوم شايل هم منك ما تقوم بس قوم وانا اخوك.
Voilà, on entendait Big Sam sur Radio Galère dans 88.4 dans l'émission Une heure en Palestine. Alors pour ma part, je ne connaissais pas Big Sam, mais manifestement c'est quelqu'un qui est très connu, d'Haïfa, c'est ça ? Et voilà, et là c'est Marie qui nous répond, Marie qui est jeune entre guillemets, hein, parce que bon, et du coup ce sont des jeunes de Urgence Palestine là, qui s'est créé très fort depuis le 7 octobre, qui nous ont transmis cette musique. Ils ne sont pas là dans le studio, mais tout à l'heure on va entendre un témoignage de ces jeunes, donc ils s'investissent énormément depuis le 7 octobre. Mais ici on a un autre jeune avec nous, qui s'appelle Abed. Abed Eden était déjà avec nous dans l'émission que nous avons faite, qui est passée le soir de Noël. Donc Abed, lui... contrairement à Marie qui se lance dans le journalisme, est un journaliste qui travaillait donc à Gaza dans les années 2010. Et forcément, quand on est journaliste à Gaza, on est aussi militant. Donc à ce titre-là, il a eu quand même un certain nombre d'ennuis. Mais il continuait son travail. Mais au bout d'un moment, s'il y a une personne qui prend soin de nous sur la Terre, c'est la maman. Et donc la maman d'Abed, en 2014, lui a dit vraiment très très fort de partir. Ce qu'il a fait, et bien elle en a pris. En tout cas, il me semble. Et du coup, il est arrivé par l'Égypte, la Turquie, en France, etc. Et il a pu obtenir le statut de réfugié politique. Et donc, il est installé à Marseille depuis pas mal d'années. Depuis combien de temps, Abed, tu es à Marseille ?
Bonjour à vous, tous. Je suis à Marseille depuis 4 ans, 4 ans exact.
Voilà. Ouais. Donc Marie, qui a créé le podcast, s'installe à Marseille, mais Abed en a une belle expérience. Et en plus, Abed, je crois que tu es à Marseille avec ton épouse et vos deux enfants.
Évidemment, oui, j'ai deux enfants. Et le premier, 5 ans, et la deuxième, 12 ans, sont deux garçons, en fait.
Deux garçons, ouais. Voilà, qui sont donc scolarisés.
Évidemment, oui.
Évidemment. Voilà, donc il me semble que, enfin, je suis chauvin, hein, bien sûr, mais je crois que tu as beaucoup de chance avec ta famille d'être arrivé non seulement en France, mais à Marseille.
En fait, c'est un bout là contrarié. C'est un bout bas clair pour moi, parce que toujours j'ai posé la question, et qu'est-ce que je fais là en France ? Vous voyez, ok, moi j'ai la chance, mais regarde la situation de ma famille, les voisins, mes amis, mes collègues, comme vous connaissez très bien, on a perdu à peu près 200 journalistes. Je connais le bleu bar mieux. Mais avant que maman tombe dans le coma, elle m'a dit, Abed, heureusement tu n'es pas là, parce qu'on est cité là et on va être attaqué comme la maison de tous les journalistes. Et la deuxième chose, on n'arrive pas à manger, parce que comme vous connaissez, moi j'essaie mon mieux depuis 15 mois d'aider ma famille et les voisins quand même. Et donc oui, après cette cette petite discussion avec maman, j'ai bien capté que j'ai la chance, parce que j'ai fait quelque chose de beau quand même, vous voyez ça.
Voilà, et donc ce que je n'avais pas compris tout de suite, enfin, je crois que beaucoup de gens ont compris que malheureusement les frappes israéliennes n'étaient pas du tout ciblées, et que c'était vraiment, je dirais, des attaques meurtrières pour toutes sortes de gens, que ce soit des tout petits enfants, que ce soit des vieilles personnes âgées, que ce soit bien sûr aussi des combattants, hein, mais du coup je n'avais pas compris que non seulement elle te demandait de fuir de Gaza pour toi, mais aussi pour elle, parce qu'en tant que journaliste et pas militaire, eh bien on est une cible prioritaire, quoi. Et ça c'est absolument terrible du coup, parce que évidemment les informations que peuvent nous fournir les journalistes, on ne les a pas.
En fait, si tu me permets, je vais vous donner un petit exemple de une journaliste, une femme, et s'appelle Ala Alhams, elle est de Rafah, le camp de Rafah, quand même, parce qu'on a plusieurs camps de réfugiés à Rafah. Et cette dame, sa maison a été ciblée. Elle a perdu la première fois, elle a perdu la moitié de sa famille. Et elle a resté avec son fils, son père et quelques-unes de sa famille. Et malheureusement, dans 30 jours, Israël a réattaqué et rebombardé sa maison. Après, elle était tuée avec tous les restes de sa famille. Et pour moi, c'est une histoire vraiment très, très touchante pour moi, parce que je le connais. Il n'a rien à voir avec tout le monde. Il est juste un journaliste qui est mari et qui essaye juste de lancer son métier, tu vois. Donc, Israël a bien ciblé le docteur comme Al-Arir, comme Rafat Al-Arir, qu'on le connaît très bien. Ouais.
Alors, justement, ouais. Effectivement, d'abord, on ne mesure pas à quel point, effectivement, y compris des journalistes qui ne sont pas forcément militants, sont pas vraiment des cibles absolues. De même, en quelque sorte, si on peut comparer ça, lorsque une Française, par exemple, devient amoureuse d'un Palestinien, elle n'aurait plus rien à voir avec le journaliste, mais forcément, elle est traquée. Pourquoi ? Parce que cette amoureuse va rentrer dans l'intimité de la vraie vie de ce Palestinien et va pouvoir témoigner, mais de façon très compréhensible, puisqu'elle va toucher les fibres émotionnelles. Et donc, toutes sortes de témoins, qu'ils soient témoins par leur amour qu'ils portent à un habitant ou évidemment par leur travail, ils sont forcément ciblés, ce qui est bien la preuve que ceux qui prétendent qu'Israël fait une guerre propre, fait attention à ne pas cibler ses noms, ils font surtout attention à effacer toute trace de témoignage sur les exactions qui sont commises, sur les crimes contre l'humanité et qui sont reconnus par les plus grandes instances du droit international. C'est bien ça, je dis pas
de bêtises. Exactement.
Voilà. Et tu disais que à peu près depuis le 7 octobre, donc toi qui es un professionnel, tu sais exactement, presque exactement, combien, tu m'as dit, 200 ou 300 journalistes.
200, plus de 200.
Et voilà, qui ont été ciblés en tant que journalistes. Et évidemment, en tant que journalistes, ça a assassiné leur famille, leurs enfants, etc.
Évidemment, mais le blobir, en fait, il y a des cas blobir que ça. Il y a des journalistes qui étaient bunis par tuer sa famille, ses familles, vous voyez. Par exemple, il y a un journaliste qui Sultan, je crois, sa famille s'appelle Sultan, et sa famille à Gaza, et lui, il était séparé au sud de la bande de Gaza. Donc, qu'est-ce qu'il fait Israël? Elle le laissait vivant, vous voyez, en vie, mais ils ont ciblé sa famille, ils ont tué sa femme, 3 enfants, sa mère, ses frères, ses soeurs, vous voyez. Donc il y a deux, et la comment Israël fait avec le journaliste, ils ont fait ça avec Wael Dahdouh, le correspondant Al Jazeera, ils ont tué sa femme, ses garçons, vous voyez. Donc c'est pas que tous les journalistes, non. On tue sa famille, on fait exprès de tuer sa famille.
Je comprends.
Comme une punition éternelle, vous voyez ça.
Comme une punition éternelle,
oui. C'était. Je viens de parler avec mon baba et en fait, il m'a choqué. Il m'a dit, en fait, les soldats israéliens sont entrés dans notre bâtiment. Ils ont pas bombardé normalement, non. Ils ont fixé de bombardements dans chaque banc, vous voyez. Après, ils ont bombardé. Vous voyez, donc, moi, j'ai fait un bout de lien. Pourquoi notre maison a été bombardée dans ce cas unique, vous voyez. J'ai dit, ok, heureusement, ma famille n'était pas là. Heureusement, je n'étais pas là quand même.
Ok, et donc, Abed, qui est donc avec nous à Marseille depuis 4 ans, donc, qui était journaliste à Gaza, donc tu nous dis que, effectivement, depuis le 7 octobre, tu as perdu un nombre, j'étais effaré l'autre jour, combien de membres de ta famille et de voisins.
J'ai pas envie de parler de ça, mais
non, je comprends.
Au minimum, j'ai...
Je suis désolé de te poser une telle question, Abed. Excuse-moi, tu as perdu énormément de gens de ta famille, oui. Et je sais que ta maman est dans un mauvais état. Est-ce que tu as des meilleures nouvelles là récemment ou... Excuse-moi.
Pour maman, on a besoin de quelques matériels médicaux très importants pour sauver maman, sauf qu'on n'a pas trouvé. Donc, bon, je suis désolé.
C'est moi qui suis désolé. En tout cas, Abed, ce que je sais, c'est que depuis le 7 octobre, en plus de ton travail de père de famille, en plus de ton travail d'époux, tu produis énormément d'objets. Quand tu appelles ça de la sublimation, c'est-à-dire que tu reproduis sur des mugs, sur des porte-clés, sur des tote bags, etc., des objets qui sont vendus spécifiquement cette fois donc pour ta maman,
oui,
pour les survivants de ta famille et leur voisin Rafa. Et tu nous en parlais beaucoup pour l'émission de Noël en nous expliquant que on ne peut pas imaginer à quel point, évidemment, quand des gens sont devant un mur, devant une catastrophe, ceux qui ne sont pas forcément solidaires d'habitude le sont. Mmh. Mais là, tu m'avais expliqué, on ne peut pas imaginer à quel point, mais avec le peu de subsistance qu'il y a, la solidarité qui existe, ne serait-ce que pour faire le pain, par exemple, ou le peu de farine qu'il y a, les gens se regroupent, et on partage, etc. Voilà, et donc ce que je voudrais dire à ce sujet, qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, qui depuis des dizaines d'années, depuis... que des gens sont au courant depuis 1948, depuis 70 ans de la Nakba, de toutes les catastrophes qui arrivent aux Palestiniens, comment les aider sous des formes, des objets, des médicaments, de l'argent. Et c'est souvent très très compliqué parce qu'on ne sait pas trop où les dons arrivent. Enfin, ce que je sais, c'est que au niveau de l'association France-Palestine Solidarité ou de l'Union juive française pour la paix, qui développe tant de projets depuis tant d'années, même là, c'est très compliqué parce que l'argent, on ne sait pas comment il arrive, etc. Et donc, la façon qu'Abed a d'aider les gens de Rafah, c'est de produire des objets voilà, qui sont vendables. Et donc, les gens qui sont ici, qui veulent être sûrs d'aider, ben, y a une façon, c'est d'aider les gens qui sont ici. Parce qu'il y a quand même un grand nombre de Palestiniens qui sont là depuis longtemps, mais d'autres qui sont arrivés depuis quelques mois et qui, contrairement à Abed, n'ont pas eu la capacité de développer certaines ressources. Et donc, il y a beaucoup de gens à aider sur place. Et là, au moins, on sait qu'eux, ils peuvent tenir le coup et du coup, aider leur famille qui est là-bas. C'est ça, Abed ?
Exactement. En fait, par exemple, moi, j'ai inventé Galerie de la Palestine 13. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram et TikTok. Vous pouvez faire passer vos commandes par le 2 compte. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sublimé les mags, les tasses, le porte-clés, boucles d'oreilles.
Des belles boucles d'oreilles, ouais. Je suis témoin, elles sont très belles.
Merci.
Ou des kefis aussi
et
très originaux.
Et le t-shirt, oui. Ouais. Donc après, je le vends et j'explique aux gens que qu'est-ce que j'ai fait là, je ne profite rien de tout. En fait, j'achète que le matériau et j'envoie tout à Gaza. Et j'ai vraiment l'envie d'expliquer comment ça marche à Gaza. En fait, à Gaza, récemment, avant le cessez-le-feu de fou, et qu'est-ce qu'elle fait, maman, par exemple? Il y a quelqu'un qui achète le farine, mais il y a la voisine qui fait le pain, il y a l'autre qui le cuit, vous voyez, il y a un autre qui le ramène et le distribue après, vous voyez, c'est ça.
Ben, quand tu dis vous voyez, franchement, personnellement, j'arrive pas à voir comment, avec tout ce qui s'est passé, les destructions de maisons, les assassinats, les déportations, mais j'arrive pas à comprendre comment c'est possible d'arriver à faire du pain. Mais je sais que c'est possible puisque tu nous le dis. Voilà, et en tout cas, donc, le travail que fait Abed est considérable, il est beau, et donc on peut le trouver en tapant Galerie Palestine 13
galerie
sur le réseau.
Galerie de la Palestine 13.
Galerie de la Palestine 13, voilà. Mais aussi Abed est présent physiquement avec ses objets sur certains stands, en particulier des stands de la route du Zaatar. Ce sera le cas le premier dimanche de chaque mois, donc à la cité des arts de la rue pour un dimanche aux Égalades. Et puis il sera également donc le 15 février.
Évidemment.
Alors le 15 février, ça va être un événement important puisque un des derniers films qui est sorti avec un collectif de gens d'Israël et de Palestine qui s'appelle No Other Land, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre pays possible que celui qui est le nôtre, il va être projeté donc dans le plus ancien cinéma du monde, l'Eden Théâtre à La Ciotat, et donc Abed sera présent non seulement pour proposer ses objets à la vente, mais également, peut-être que tu peux nous dire un mot sur le fait que tu souhaites participer au débat qui va suivre le film.
En fait, il y a plusieurs militants qui m'ont posé la question et que pourquoi il y a pas d'un Palestinien qui présente le point de vue du Palestinien dans les débats de No Other Land. Et donc moi j'ai pas de problème, sauf que j'ai pas de problème de faire ça, sauf que mon seul problème, tout le monde ici en France, il pose la question sur la famille, sur qu'est-ce qu'on a perdu. En fait, j'arrive plus de parler de ça, vous voyez. J'aimerais bien qu'on parle d'un peu de niveau politique, ou peut-être au niveau de collectivité, solidarité entre les Palestiniens avant de la guerre. Vous voyez, ça, c'est un truc que j'aime
bien. Bien sûr, et d'ailleurs, je m'excuse d'avoir encore posé cette question sur ta propre maman. C'est indécent. Et je m'en excuse auprès de toi. En tout cas, oui, bien sûr que tu seras le bienvenu donc, le 15 février, parce que non seulement tu sais de quoi tu parles, hein, tu es un Gazaoui, mais en plus tu es un journaliste. Et ça sera l'occasion de voir comment cette conférence va être à quel point intéressante, puisqu'il y aura aussi un grand réalisateur de documentaires en particulier, qui est israélien, mais qui lui vit à Marseille depuis très longtemps et dont les films sont vraiment orientés sur faire connaître les horreurs, les injustices abominables dont les Palestiniens sont victimes depuis longtemps. Voilà, donc on espère que vous serez nombreux à pouvoir venir à l'Eden Théâtre à La Ciotat le 15 février, qu'il y ait du soleil ou qu'il pleuve, le film sera projeté et ça sera un bon moment. En tout cas, merci beaucoup,
merci
Abed, pour ce que tu fais. J'ajoute que Abed a eu le mérite, tu peux partir, a eu le mérite de passer un CAP de cuisinier à Marseille, donc il a également le permis de conduire et donc c'est un super cuisinier. Il cherche un lieu qui peut être un lieu associatif ou un bar qui aurait fermé ou je ne sais quoi, dans lequel il y aurait du matériel de cuisine installé afin qu'il puisse justement créer cette fameuse cuisine. Parce que malgré son CAP de cuisinier, malgré son permis de conduire, malgré les annonces d'embauche auxquelles il a répondu, peut-être que c'est parce qu'il est palestinien, il n'a pas encore eu d'emploi. Voilà. Donc si des gens parmi vous connaissent une association, un ancien bar ou autre, qui a une cuisine équipée, eh ben, Abed se fera un plaisir de sublimer ce lieu. Merci encore Abed et à bientôt.
They say occupation, trying to hide that it's a genocide. I just wish a kid could grow up to see his mama. I wish that I could do something about bombs dropped on Gaza. Hurts so bad to know, where do my tax dollars go? Murdered in cold blood, poor young soul, all he knew was love. The whole world goes blind, turned to silence, while I'm saying free Palestine from the tyrants. I don't even know if I could handle this pain. Every day's a murder, kids get put in the grave. Shot for his race, the place he was raised, when peace was the only thing that he ever craved. So how you justify what you do? It hurts so bad to see all the lives you're losing. It feels like the world goes blind. Free Palestine, free Palestine.
Pray to God that the world gon' finally see what goes on overseas and behind the scenes. A little boy got his neck on the concrete, like George Floyd and a kid when he trying to breathe. He threw a rock, but they got a tank. Dead on the floor, he been praying for change. You murder children, no, we not the same. You got my people, they dying in chains. Ain't nobody evil like the IDF. Little kid in his thoughts thinking I might be next. He got shot, in peace may he rest. I seen it in the videos and photographs. You shoot a kid and you laugh about it. Hurt so bad, nobody ever ask about it. Too many bodies to count with simple mathematics. Family's gone and it's so traumatic.
Leave his home alone. He was there his whole life. Now everything is gone. He don't got no shore to cry on, not even moms. They done made him homeless. Now he got no one. Family deceased by explosions. Mentally he's scarred and all he sees are those moments. All he can do is pray. I'm
Merci Sidi donc pour cette deuxième musique qui est disponible sur YouTube. C'est l'auteur, c'est sa mère, l'auteur interprète, voilà, et ça fait du bien aussi d'entendre des chansons en anglais sur Radio Galère 88.4 qui a évidemment une diffusion internationale hein, puisque l'émission Une heure en Palestine est diffusée chaque mercredi de 18h à 19h. Elle est rediffusée le lundi de 11h à midi et puis au bout d'un certain temps, grâce à Sidi et l'équipe de Radio Galère, elle est dans les podcasts et bien évidemment à ce moment-là, on peut l'écouter sur la terre entière, voire même au-delà. Et du coup, cette musique nous a été transmise par des jeunes là, qui se sont énormément mobilisés depuis le 7 octobre sous la base d'un collectif Urgence Palestine, mais qui est aussi impliqué dans beaucoup d'autres collectifs qui existaient déjà depuis très très longtemps, hein, puisque on parle beaucoup du 7 octobre, mais il y en a qui ont oublié de dire que ça fait plus de 70 ans hein, qu'il y a énormément de mobilisations qui sont nécessaires de par le monde, puisque dès 1948, avec la fameuse catastrophe qu'on appelle Nakba en arabe, c'est-à-dire qu'en 1948, des centaines de milliers de familles palestiniennes, vieillards, enfants, etc., ont été obligés de fuir parce que leur maison déjà avait été détruite, ont été obligés de s'exiler, etc., etc., etc. Alors du coup, y a des gens qui sont très âgés hein, et qui travaillent dans différentes structures comme par exemple Association France-Palestine Solidarité et qui ont connu un nombre incalculable de crises, de guerres. Mais à chaque fois qu'une nouvelle crise, qu'une nouvelle guerre arrive, et malheureusement c'est très récurrent, il y a tout un tas de gens qui découvrent ce qui se passe et qui du coup se mobilisent. Et c'est tant mieux. Après, il faut que ces gens ils aient la persévérance, la patience de lutter longtemps parce que ce genre de combat on les gagne pas entre guillemets, c'est-à-dire qu'on doit les mener tout le temps, les combats contre les injustices, contre les abominables terreurs que font subir les colonisateurs de toutes sortes. Voilà, et donc on va, le mieux c'est de leur laisser la parole. Alors malheureusement, contrairement à Marie, la réalisatrice de Yalla je t'emmène, on n'a pas pu avoir ce soir au studio de Radio Galère quelqu'un de Urgence Palestine, mais on va entendre un témoignage et c'est encore le mieux. Voilà, donc on leur laisse la parole aux militants d'Urgence Palestine.
Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Je m'appelle Sabrina et je fais partie du collectif Urgence Palestine Marseille. Ce dernier est né dans les suites des bombardements et des attaques perpétrées à l'encontre des civils gazaouis. Il a pour but de dénoncer les injustices subies par les Palestiniens et les conditions de vie sur place. Pour cela, nous avons différents projets et actions. Parmi eux, il y a le projet Résilience Gaza, dont nous sommes fiers de vous annoncer le lancement de la campagne. Ce projet vise à mobiliser vos dons précieux pour apporter une aide concrète et immédiate aux réfugiés des camps de Deir el-Bala à Gaza. Chaque semaine, vos contributions permettront la livraison de colis alimentaires pour soutenir les familles les plus vulnérables, l'achat et la distribution de médicaments essentiels pour les enfants et adultes atteints de maladies chroniques, l'amélioration des conditions de vie grâce à la réparation ou l'achat de tentes, ainsi qu'à la distribution de vêtements adaptés aux besoins et de polycopiers, afin que les étudiants puissent maintenir leur scolarité. En participant au projet Résilience Gaza, nous affirmons ensemble notre solidarité avec ces familles qui, malgré l'isolement et les difficultés extrêmes, se battent chaque jour pour vivre dignement sur leur terre. À Gaza, où les ONG internationales ont longtemps été empêchées d'agir, et malgré l'ouverture récente d'un point de passage, l'aide reste limitée et les besoins sont colossaux. Il est donc de notre devoir collectif de soutenir ces initiatives locales pour permettre aux habitants de s'organiser et de résister. Vos dons sont un acte concret de fraternité et d'espoir. Ensemble, aidons Gaza à survivre. Votre soutien est vital. Les habitants de Gaza et toute l'équipe du projet Résilience Gaza vous remercient chaleureusement pour votre engagement. Vive la solidarité. Palestine vivra. Palestine vaincra. Toutes les informations sont disponibles sur nos réseaux. Merci.
Voilà, donc on remercie Sabrina qui fait partie donc de nombreux militants et militantes plutôt jeunes qui se sont constitués dans un collectif qui s'appelle Urgence Palestine. Et donc on avait avec ce témoignage la possibilité concrète donc d'aider concrètement pour des lieux précis, des choses précises. Et donc on peut trouver les renseignements de cette structure et la façon d'aider donc des Gazaouis en allant sur internet et en tapant donc Résilience Gaza en un seul mot. .org. Voilà, donc on remercie Sabrina. Et parmi ce collectif, il y a également une autre jeune fille qui s'appelle Rislen. Rislen que je ne connaissais pas, mais qui, elle aussi, en tant que jeune fille née en Algérie, la plupart des gens qui sont nés en Algérie, dès la naissance, ils sont tout à fait concernés, impliqués, informés sur les injustices absolues, sur les horreurs que subissent les Palestiniens. Et donc des gens comme Rislen ont cette douleur chevillée dans leur cœur, dans leur corps. Et donc au bout d'un moment, ces gens-là ont absolument besoin de donner un sens à leur douleur. Enfin, pas de donner un sens, mais en tout cas de transcender leur douleur en ayant la possibilité d'être réellement active pour aider. Et donc la façon dont Rislen a rempli, je dirais, ce besoin de transcendance, ben c'est d'une part de s'engager comme beaucoup, beaucoup d'autres gens dans les manifestations qui ont lieu tous les dimanches, mais ça ne lui suffisait pas, alors elle a eu la possibilité de rencontrer à Marseille Jean-Marie Dansette, le fameux Philistin, qui n'est pas marseillais, lui, il est basé en Aveyron, mais Jean-Marie Dansette et sa famille, il y a plus de 25 ans, ont créé une petite entreprise, fipsouk.fr, qui a des accords avec beaucoup d'artisans, de paysans palestiniens et de coopératives agricoles en Cisjordanie, et qui, donc, depuis 25 ans, réussit à importer des produits artisanaux ou alimentaires palestiniens en France. Et lorsque ces produits ont enfin réussi à arriver dans les entrepôts donc d'Aveyron. Ils sont ensuite distribués ou bien par des tournées qui sont faites en camion suite à des commandes qu'on peut faire sur le site donc fipsouk.fr. Et puis par chance pour nous Marseillais et pour ceux qui habitent dans les environs, Fipsouk a donc créé une boutique à Marseille qui s'appelle Yabladi, et l'adresse est facile puisque la boutique Yabladi c'est place Labadier, une place qui est entre les réformés et le palais Longchamp à Marseille. Et donc Rislen, cette jeune fille, en plus de s'engager dans l'urgence Palestine, a été la responsable de cette boutique là pendant tout l'automne dernier, mais jusqu'à Noël. Et il se trouve que, à un moment donné, Rislen a reçu la visite d'une dame qui est la maman d'une autre jeune fille qui a été extrêmement active dans son travail de journaliste en Palestine et qui s'appelle Marine Vlaovic. Je dis qui s'appelle parce que j'en parle au présent. Malheureusement, Marine a été retrouvée décédée sur la terrasse de son appartement en fin d'automne dernier. Et donc, la maman de Marine Vlaovic s'est présenté à la boutique Yabladi avec un cabas en disant ben voilà, ces livres font partie de la bibliothèque de Marine. Et elle a dit ben puisque dans cette boutique il y a des gens qui viennent parce qu'ils s'intéressent à la cause de la Palestine ou parce qu'ils la découvrent, ben voilà, écoutez, essayez de faire au mieux pour que ces livres existent. Alors du coup, je sais que la dernière émission Une heure en Palestine de 2024 que Régine Furani a animé a été vraiment consacrée à Marine Vlaovic, surtout par rapport à tout le travail donc de journaliste qu'elle a fait pendant des années, parce que je crois qu'elle était vraiment une correspondante professionnelle pour beaucoup de médias, France 24, etc. Mais je vois Marine là qui est avec nous, alors pas Marine, pardon, Marie, qui est avec nous parce que Marie est l'une des co-réalisatrices du podcast Yalla, je t'emmène, hein, qui est disponible sur toutes les plateformes et dont on a pu écouter la balance d'annonce. Et peut-être que Marie, tu es beaucoup mieux placée que moi finalement pour nous parler de ce travail de journaliste qu'a fait donc Marine Vlaovic.
Marine Vlaovic, elle était à Ramallah en tant que correspondante pour des médias français de 2000 ou francophones de 2016 à 2019. Et en fait, elle en a fait un podcast elle-même. Et ce podcast nous a beaucoup inspirés avec Logo Créateur. Parce que c'est aussi un podcast très immersif qui nous emmène aussi à Ramallah, aussi en Cisjordanie et aussi à Gaza. Parce qu'elle elle a eu l'occasion de couvrir Gaza aussi en tant que journaliste là-bas. Et c'est un podcast que je recommande vivement et qui a été produit par Arte Radio, qui la connaît très bien. Et qui s'appelle Carnet de correspondance.
Voilà. Non, merci Marine de nous éclairer sur ce point. Donc on répète, Marine Vlaovic C'est un petit peu comme Étienne Bastide et d'autres. Voilà. Bien évidemment, malheureusement, ils sont décédés pour diverses raisons. Mais leur travail radiophonique en particulier donc, reste vivant sur les ondes. Voilà. Donc on peut écouter Marine Vlahovic par ses travaux qu'elle a fait, par ses podcasts. Et on peut également lire donc, un certain nombre de livres dont elle s'est inspirée pour son travail, etc. Et donc, dans cette boutique Yabladi, on peut trouver quelques livres, mais à Marseille, il y a d'autres lieux, et en particulier l'importante librairie associative Transit, qui est située au bien nommé boulevard de la Libération, au 51, dans lequel on peut trouver énormément de livres. Alors je voudrais en profiter pour en citer quelques-uns, quelques-uns dont on a déjà beaucoup parlé, en particulier celui de Mohamed Sabaneh, hein, qui lui est un journaliste, mais plutôt graphiste, caricaturiste, donc palestinien, de Ramallah. Et il y a quelques années, eh bien, à force de faire son travail, il a été lui aussi traqué par les autorités israéliennes et mis en prison. Et donc à ce moment-là, il a produit un magnifique livre de bande dessinée qui s'appelle « Je ne partirai pas » et qui est édité aux éditions Alif Bata avec Simona, installée à Marseille. Et donc, dans ce premier ouvrage, il raconte finalement ses aventures à la fois terribles, mais qu'il a pu surmonter dans les geôles israéliennes, bizarrement réussissant là-dedans à utiliser son humour. Voilà. Et le deuxième livre qu'il a produit, alors lui, il est postérieur au 7 octobre, il s'appelle 30 secondes à Gaza. Donc à ce moment-là, après le 7 octobre, parmi les frappes terribles que subissait Gaza, il y avait quand même quelques vidéos qui pouvaient passer, mais qui étaient limitées à 30 secondes. Et du coup, il a vu quelques images, il en a fait quelques dessins, et tout de suite, Simona des éditions Alif Bata lui a proposé d'en faire un livre. Mais lorsqu'il voulait retourner voir les vidéos, il se rendait compte qu'elles avaient disparu. Alors malheureusement, oui, on peut faire disparaître des images, on peut faire disparaître des enregistrements sonores, mais lui, son travail, il le fait sur du papier à l'encre de Chine, en considérant que ça, c'est un moyen, je dirais, indélébile de garder une trace de ce qui se passe, une trace à la fois des drames, mais aussi des miracles de résistance qui se produisent, de résilience, etc. Alors ensuite, il y a deux autres livres qui sont tout à fait récents aussi, qui eux sont publiés chez Investigaction, et il y en a un en particulier qui est coécrit par Jean-Pierre Boucher et Michel Collomb, avec un collectif qui s'appelle Test Média International, et qui est très important parce que ce livre s'intitule « Enquête sur la journée qui a changé le monde », et la journée en question, c'est le 7 octobre. Alors évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de journées qui ont changé le monde dans l'histoire de l'humanité, mais celle-là, le souci, c'est qu'elle génère énormément d'effets collatéraux, enfin d'abord, évidemment, énormément de victimes sur place, ça c'est absolument intolérable, mais aussi d'effets collatéraux, et comme nous l'a expliqué Abed, vu que Israël est extrêmement efficace pour détruire en particulier les journalistes, hein, qu'ils soient israéliens, enfin, qui pourraient témoigner, ben c'est très très compliqué d'y voir clair, donc ce livre a le mérite d'essayer d'y voir plus clair, donc il s'appelle 7 octobre, enquête sur la journée qui a changé le monde. Et alors ce fameux donc, Jean-Pierre Boucher qui a coécrit ce livre, a été l'auteur il y a beaucoup plus longtemps d'un tout petit livre qui s'appelle « Palestine, plus d'un siècle de dépossession », et il y a une nouvelle édition qui est sortie en 2024. Alors ce livre, je l'ai dans les mains, là, il fait vraiment que quelques pages, quelques illustrations, quelques photos, quelques croquis, et je sais de source sûre que des gens qui s'intéressent au sujet mais qui n'y comprennent rien parce qu'ils ne sont pas allés en Palestine, hein, contrairement à Marie, ou parce qu'ils n'y sont pas nés, contrairement à Abed ou comme moi, et qui n'y comprennent rien parce qu'ils sont assommés d'informations absolument incroyablement mensongères et propagandistes de aux médias. Et donc ce petit livre qui s'appelle « Palestine, plus d'un siècle de dépossession » aux éditions Scribest, Récit et Présent, est excellent pour mieux comprendre la véritable histoire de ce territoire et des gens qui y vivent. Ensuite, un autre livre qui vient de sortir lui aussi, qui s'appelle « Gaza, ma vie sous les bombes » et qui a été écrit par Ziad Medouk. Alors je crois aussi que Ziad Medouk, peut-être que Marie, tu vois qui c'est, tu en as entendu parler, non? En tout cas, ce livre est aussi publié chez Investigation, et je sais que Ziad Medouk est quelqu'un de très important là-bas. Donc en plus d'avoir produit ce livre « Gaza, ma vie sous les bombes », je sais qu'il a fait une petite préface pour un petit fascicule, cette fois de poèmes, de dessins, fait par un ami très cher qui s'appelle Giovanni Vutor. Donc c'est un Corse, comme son nom l'indique, d'origine viking, et qui est très très actif chez nos amis corses là-bas avec le réseau Corsica Palestina. Donc voilà, on a parlé beaucoup de livres, et je voudrais... Voilà, donc je souhaitais parler dans cette émission, bien évidemment, de radio, puisqu'on est sur Radio Galère 88.4 dans l'émission Une heure en Palestine. On a également parlé de la radio par rapport au podcast qu'a réalisé Marie, qui était avec nous. On a parlé de ce tellement important travail de journalisme. On a parlé de cinéma également, puisqu'il y a un cinéma extrêmement prolifique en Palestine depuis très longtemps, hein, que ce soit des documentaires ou des fictions. Alors concernant le cinéma, je sais que j'ai beaucoup parlé avec une Palestinienne extraordinairement concernée, puisqu'elle vit à Jérusalem et qu'elle est extrêmement intervenante dans beaucoup de conférences internationales. Et autant elle aimait beaucoup que des gens apprennent des choses par rapport au cinéma, mais elle est très très réticente, elle met en garde sur le fait que ce soit des fictions ou même des documentaires peuvent amener des gens à croire qu'ils ont compris une certaine réalité, alors qu'en vérité ils ont compris un film. Et ça, c'est un écueil évidemment qui peut être problématique, surtout quand c'est des documentaires. Et justement, on a beaucoup parlé évidemment dans cette émission de Gaza, hein, forcément, puisque bon, il y a eu plusieurs mois de... pas de guerre en fait, je ne sais pas comment appeler ça, d'extermination absolument terrible. On était avec Abed immédiatement, et donc bon, on sait qu'il y a un petit cessez-le-feu qui est évidemment toujours une très bonne nouvelle pour des otages et ou des prisonniers qui ont pu être libérés. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que pendant ce temps, en Cisjordanie, c'est-à-dire un immense territoire de Palestiniens, il se passe des choses absolument terribles. Et justement, Marie, qui était avec nous, a pu retourner à Ramallah après le 7 octobre par rapport à ce blog Yalla, je t'emmène. Et donc peut-être, Marie, tu peux nous dire, toi, des réalités que tu as pu percevoir à Ramallah et en Cisjordanie en général, sous couvert de cesser le feu à Gaza, qu'en vérité il se passe des choses terribles en Cisjordanie, c'est ça, si j'ai bien compris?
Oui, en ce moment en particulier. Alors moi, quand je suis repartie, la situation s'était aussi aggravée. D'ailleurs, c'est aussi un des sujets du podcast, d'essayer de voir comment la situation a évolué depuis le 7 octobre. Malheureusement, on utilise toujours cette date comme point de bascule, et pour la Cisjordanie, ça a aussi été un point de bascule. Et maintenant qu'il y a un cessez-le-feu à Gaza, et c'est très bien comme ça, il y a aussi la situation qui est en train de s'aggraver en Cisjordanie. L'idée du podcast était aussi partie en se disant qu'on ne parlait pas suffisamment de Cisjordanie, on parle beaucoup de Gaza et c'est très bien comme ça. Mais nous, on voulait aussi apporter quelque chose dans le paysage médiatique francophone sur la Cisjordanie. Et donc ça servait un peu d'éclairage sur comprendre un peu tous les tenants et aboutissants de cette situation de manière un peu romancée par mon histoire.
Oui, donc dans ce podcast, Yalla, je t'emmène, d'autant plus important. Donc j'ai compris que tu l'as surtout réalisé à Ramallah, parce que Ramallah, c'est une espèce de ville hors norme finalement en Cisjordanie et en Palestine en général. Mais on a tous entendu que récemment, donc, l'armée israélienne est allée faire des massacres dans un camp de réfugiés de Jenin, enfin, etc. Et moi qui n'y suis jamais allé, tous ces noms me parlent, que ce soit Ramallah, Jenin, Hébron, etc. Parce que moi je sais, en tant que relais donc, du travail de FIPSOU, que c'est à Jenin que sont rassemblées toutes les récoltes de Zaatar, par exemple, c'est dans Ramallah que les coopératives amènent l'huile d'olive, c'est à Hébron que sont produits les céramiques. Mais voilà, ce qu'il faut absolument savoir, donc, c'est que pendant que, apparemment, il y a une petite trêve à Gaza, et même quand il n'y a pas la trêve, ben, il se passe des choses absolument intolérables, inacceptables, dans tous les villages de Cisjordanie, dans les villes, etc. Et on voit bien que finalement, le but qui est poursuivi depuis la Nakba, depuis 1948, ben, c'est d'exterminer, oui, de faire disparaître de la carte les Palestiniens, leurs villages, etc. Et il ne faut pas, parce que ce que produisent ces gens-là depuis la nuit des temps, que ce soit leur musique, que ce soit leur artisanat, que ce soit leur façon de faire de l'agriculture, et puis tout simplement, ce sont des êtres humains, c'est juste pas possible que ce qui se passe continue de se passer avec, encore une fois, la complicité de la communauté européenne et donc de la France. Voilà, donc par pitié, il faut que ça s'arrête. Alors justement, Sidi me fait signe que cette émission va bientôt s'arrêter, donc merci d'avoir écouté encore une fois Une heure en Palestine. Cette émission est très importante. Radio Galère ouvre ses micros à beaucoup de gens divers et variés, donc n'hésitez pas à proposer vos voix, vos témoignages à Radio Galère. Donc merci Marie, on va écouter Yalla, je t'emmène. Et merci encore Sidi. Et donc merci aussi à Palestine 13, hein, et tous les militants qui font beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller sur le site assopalestine13.org. A ciao Sidi, à la prochaine. Ah, ciao tutti. Ouais.